Monsieur Daniel, pour cette intro. Et en tout cas, un grand bonjour à tout le monde, celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de voir ce matin. Et vous avez la salutation de Guy, qui m'a demandé de transmettre cela à cette église, à chercher l'église que nous aimons tous. C'est une joie d'apprendre à se connaître et de s'apprécier et de s'aimer surtout. À la base de nos relations, il y a cet amour de Dieu que lui verse dans nos cœurs. Alors, je commençais par une bonne nouvelle. Comment voyez Guy ? Peut-être certains d'entre vous, là, je le suis aussi. Sachez par exemple que le procès historique, la cour d'appel de Versailles conclut que l'occupation par Israël de la Cisjordanie est légale. C'est un procès historique. Et c'est merveilleux de savoir ça, mais il faut s'attendre à des réactions probablement violentes de la part de ceux qui n'admettent pas ce point de vue-là. Et je crois qu'il nous faudra continuer à prier pour ce peuple qui est appelé le peuple de Dieu, que le Seigneur a choisi, pas parce qu'il était le plus grand de tous les peuples. Vous savez pourquoi ? Le Seigneur a choisi ce peuple. Parce qu'il était le plus petit et parce que l'Éternel dit « Je t'ai aimé ». Je t'ai aimé. Le même amour dont nous sommes aimés, Israël est aimé de Dieu et en prendra soin jusqu'au bout. Tant qu'il y a Israël, il y a l'Église. S'il n'y a plus Israël, il n'y a plus d'Église. Je reviendrai à ces quelques mots que j'ai préparés pour vous. Le titre, ce serait « Prendre garde ». Pourquoi cette expression-là ? Parce que simplement, dans plusieurs versets que je vous citerai, il y a ce « prenez garde »,« prendre garde ». Juste avant l'an 2000, dans un bâtiment public, fleurissait cette inscription « Jésus revient, Jésus revient ». Est-ce que c'était un avertissement ultime pour ce monde ? En tout cas pour nous, ce n'est pas étonnant parce que c'est ce que nous attendons vraiment, le retour du Seigneur, et avec bonheur, parce qu'elle mettra fin à un monde difficile, un monde de guerre, de bruit de guerre, parce que ça a été annoncé depuis longtemps, et ce sera ainsi jusqu'à l'achèvement. Et d'autant plus que ce jour se rapproche davantage, puisque c'est déjà l'heure de nous réveiller, dit l'apôtre Paul à Romains 13, car maintenant le salut est plus près de nous que le jour où nous avons cru. Les jours passent. Et si l'apôtre disait cela solennellement déjà il y a 2000 ans, combien davantage devrions-nous prendre garde ? Et toutes ces choses ne sont qu'un commencement douleur, dit le Seigneur Jésus lui-même. Nous trouvons cela dans l'évangile de Matthieu. Et ce serait intéressant de lire ces paroles de notre Seigneur bien-aimé qui sont exprimées à la suite d'une demande des disciples. Seigneur, dis-nous un peu quand ces choses arriveront. Quel sera le jour de ton avènement ? Que se passera-t-il ? Et Jésus leur répondit, prenez garde. Voilà déjà un premier prenez garde. Prenez garde. Toutes ces choses sont un commencement de douleur. Et au verset 33 et suivant, le Seigneur ajoute, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que cela est proche à la porte. À la porte. J'ai fait ouvrir une porte et les choses arrivent. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Cette génération, de quelle génération s'agit-il ? Et si c'était la nôtre ? Et si c'était un autre? Un Thessaloniciens 5, verset 3 nous dit ceci. Quand ils diront paix et sûreté, hein, ou sécurité, paix et sûreté, ou paix et sécurité, alors une subite destruction viendra sur eux et il n'y a pas de remède. Ils n'échapperont point. N'entendons-nous pas actuellement de tels discours? Et lorsqu'une naissance approche, les douleurs s'accélèrent. Et les événements annoncés nous interpellent, nous aussi. Pour nous, enfants de Dieu, nous sommes à l'abri du jugement qui va fondre sur cette terre. Parce que, en Jean 14, le Seigneur nous dit à plusieurs reprises, ne craignez pas. Ne craignez pas, soyez en paix. Le Seigneur fait régner la paix dans nos cœurs, malgré ce que nous apercevons de si terrible. Est-ce que ça ne nous interpelle pas, ces guerres qui fleurissent un peu partout? Écoutons ce plaidoyer de l'apôtre en Philippiens 2, 20 et 21. Car je n'ai personne qui soit animé du même sentiment. Pour avoir une sincère sollicitude pour ce qui nous concerne, pour ce qui vous concerne, Philippiens. En effet, tous cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Un autre avertissement du même apôtre en Éphésiens 5. Prenez garde, encore un autre, prenez garde. Prenez garde à marcher soigneusement. Non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion. Il nous est dit dans une autre traduction, rachetez le temps, parce que les jours sont mauvais. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, fait cette citation en Éphésiens, je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, il était prisonnier, il n'était pas dans des conditions tellement favorables. Et il encourage les autres, il encourage ses amis philippiens à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Quelle belle expression! Comme ça nous encourage à nous aimer, nous apprécier les uns les autres, malgré mes défauts, malgré nos défauts. Nous nous apprécions et nous nous aimons. Nous nous aimons les uns les autres d'un amour que Dieu verse dans nos cœurs. Quel parfait amour que le sien. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Combien cette paix est précieuse alors qu'on parle de guerre tout autour de nous. Avec cette injonction, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Cela nous est rappelé aussi en acte 2 et au verset 40. Pour quelle raison? Afin que vous soyez sans reproche de bien-aimés enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie. Cela nous est cité en Philippiens, chapitre 2, verset 16. Quelques exemples de ce qui est imposé dans les écoles en France, notamment. La théorie de Darwin, vous savez, cette évolution, l'homme qui descend d'un animal, soi-disant. Et là, ce Darwin, ce cher Darwin, s'est repenti de ce qu'il avait proposé, cette fameuse théorie. Hélas, trop tard. Mais sachez, mes amis, que cela est imposé et enseigné encore aujourd'hui dans les écoles en France. Nos enfants sont obligés d'entendre ça et d'y souscrire. Hélas. Quand dans les années 60-70 sont venus l'ADN, la théorie de Darwin a pris un sale quart d'heure. parce qu'elle s'est effondrée. Il faut savoir d'autre part que la ville de Lyon, par exemple, propose des associations qui disent à de jeunes enfants, tu sais, si tu veux être une fille ou un petit garçon, pas de souci, c'est ton choix. Un autre fait, l'ONU prépare un document qui obligerait les religions chrétiennes à introduire la notion LGBT dans leur message évangélique. C'est-à-dire que l'homosexualité serait un choix libre et incontestable. Vous voyez, on en arrive, chers amis. Un nouveau traité de pandémie de l'OMS se prépare. Est-ce la fin de la souveraineté des pays? Y aura-t-il une autre pandémie selon l'OMS? La réponse est oui. Et elle sera plus meurtrière que le Covid. On s'attend à tout, hein? L'OMS se prépare à rédiger un nouveau traité qui contraint ou qui contraindrait des royaumes à se soumettre à leur volonté. Le Royaume-Uni et l'Amérique ne sont pas d'accord. Il n'est pas question de céder la souveraineté nationale à un petit groupe de fonctionnaires de l'OMS. Alors, ça présage quelques empoignades. Depuis plus de 2000 ans, les Saintes Écritures nous affirment qu'il y aura guerre et bruit de guerre jusqu'à la fin des temps, et que la venue du Seigneur aura lieu dans une période de trouble. Au fait, Colossiens 2:8 se donne un autre « prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Dieu. » Il nous faut combattre, il nous faut résister, il nous faut rester victorieux, parce que notre Seigneur nous enseigne autre chose que ce que les hommes veulent bien nous faire croire. Au fait, il faut signaler aussi qu'on consacre des millions de dollars à rédiger de nouvelles Bibles falsifiées. Gardez bien la version Louis II, 1910, mes chers amis, et tenons-nous fermes à ce que l'enseignement nous a été donné depuis notre enfance par ces belles traductions, bien qu'il y ait, comme dans d'autres versions aussi, certaines choses qu'il faut préciser. L'idéal, ce serait de nous inspirer vraiment de l'enseignement de la Torah, du Talmud, c'est-à-dire de la Bible qui est rédigée en hébreu, mais qui est capable encore, à notre âge, d'apprendre une langue difficile, mais précieuse. Je vous assure que, en tout cas, je me souviens qu'un disque nous proposait d'apprendre à lire l'hébreu, lire déjà, pour 25 euros, en quelques séances, et en une dizaine de séances, il prétendait qu'on pouvait lire la Bible en hébreu. J'ai pas essayé, j'ai fait autre chose. Mais en tout cas, j'ai retenu une chose de leur part, c'est que quand vous lisez la Bible, même si vous ne comprenez pas, et c'est une réflexion que mon papa me faisait, « Michel, lis la Bible, même si tu ne comprends pas, lis la Bible !» Ce que j'ai fait plus tard, je n'ai pas compris tout de suite, parce que j'étais très jeune quand mon papa m'a dit ça. Et je vous assure que je ne regrette pas vraiment d'avoir sondé et sonder encore cette précieuse parole de Dieu qui est d'une profondeur que vous imaginez certainement autant que moi. Hébreux 12, 27 nous dit « Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle, car s'ils n'ont pas échappé ceux qui avaient refusé celui qui parlait en oracle sur la terre, en oracle ça veut dire en déclaration, en prophétie. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux et dont la voix ébranla alors la terre. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Dit Hébreux 2, verset 3. Heureuse promesse de la part de l'apôtre Pierre. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 13, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le Seigneur ne brouille pas les pistes. Il nous annonce de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le Seigneur nous a créés pour vivre sur cette terre à temps. Et puis il va changer la donne et il va créer toutes sortes de choses nouvelles qu'il n'a pas pris la peine de nous détailler, parce que ce sera tellement, à mon sens et au vôtre, j'imagine aussi, ce sera tellement fabuleux qu'on n'a pas la capacité de réaliser, même d'une manière infime, ce que ça peut présenter. Si déjà nous ne pouvons pas sonder l'infini, qu'est-ce que c'est que l'infini? Vous avez une idée, vous? Qu'est-ce que c'est l'infini? En tout cas, c'est ça quelque chose de tellement immense, tellement insondable, que le Seigneur nous dit simplement ce qu'il n'y aura plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, ni larmes, ni douleur. Le Seigneur nous annonce déjà ce qui ne nous concernera plus. Tout sera, toutes ces choses qui nous font de la peine aujourd'hui, seront oubliées. La vie éternelle et le pardon des péchés tels qu'ils sont offerts au monde à travers l'Évangile devaient être notre priorité la plus élevée. Raconter aux autres ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Laisser les 99, les 99 brebis au désert et nous occuper de celle qui s'est égarée. N'est-ce pas une fonction essentielle qui devait nous caractériser, mes chers amis? Le Messie est venu dans ce monde, d'abord et avant tout pour chercher et sauver ce qui était perdu. N'avons-nous pas à cœur de solliciter pour ceux que nous aimons ce passage de l'apôtre Paul, je le répète tous les jours. Le désir, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux. L'apôtre Paul s'exprime pour le peuple d'Israël, pour ses frères dans la chair, ses juifs, qu'il était lui-même. La supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Ensemble, avec une chère épouse, nous répétons ce désir-là chaque jour, en demandant au Seigneur, souviens-toi de nos enfants, de nos petits-enfants, même de nos arrière-petits-enfants. Une anecdote à partager. Qui a marqué sur mon visage, maman, que je n'étais pas sage? Mais c'est Dieu, mon enfant. Mais Dieu n'était pas là. Ah, tu crois cela parce que tu n'as vu personne. À toute heure qui sonne, mon enfant, Dieu est partout. Nul ne le voit, mais lui voit tout. Chers amis, si vous répétez cette séquence à vos petits-enfants, sachez que ça va rester dans leur cœur, dans leur mémoire. Ils se rappelleront qu'il y a quelqu'un qui les regarde en silence, qu'ils ne voient pas, mais qui est quand même là. Retenons ce principe du royaume de Dieu. Mourir pour vivre. Le fondement du christianisme qui considère la mort comme une force de transformation qui conduit à une vie nouvelle. La mort est une force qui, par la transformation qu'elle va opérer, amène dans une vie nouvelle, même une vie éternelle. C'est la métaphore du grain de blé. Le Seigneur en parle dans l'Évangile. C'est une expression puissante de la loi spirituelle du royaume de Dieu. Il faut que la graine qui tombe en terre puisse germer, mais il faut qu'elle meure. Et si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits, du fruit semblable au grain dont elle est issue, mais elle opère une profonde transformation intérieure. Répétons qu'il s'agit d'un principe fondamental du christianisme qui considère que la mort est une force de transformation qui conduit à une vie nouvelle, à la vie éternelle. Et c'est pas une belle métaphore à raconter à nos enfants. L'exemple du Seigneur est fulgurant. Il est venu sur la terre, il a comme ce grain de blé tombé en terre et est mort pour nous donner la vie. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte pour vous. S'encourager réciproquement et s'engager à se préparer pour rencontrer bientôt le Seigneur, n'est-ce pas une précieuse occupation? Est-ce que ce monde sait, comme dans nos familles aussi, quel est le camp que nous avons choisi? Quel est l'étendard que nous poursuivons? La joie immense de notre relation avec le Seigneur est-elle visible? Donnons-nous envie à notre entourage de ne rien préférer d'autre que cela, vivre avec Christ et pour Christ. Quelle belle occupation. Une dernière anecdote, chers amis, qui est peut-être assez longue, mais vous ne vous endormirez pas parce que je l'ai trouvée assez précieuse. Et vous verrez qu'en Russie, il y a autre chose que ce qu'on nous propose maintenant. C'est l'histoire de Dimitri Kuznetsov, peut-être vous le connaissez, peut-être pas non plus. Nous sommes à l'époque de l'Union soviétique, qui prônait l'athéisme. Un scientifique du nom de Dimitri Kuznetsov avait reçu le prix Lénine, qui est le correspondant de notre prix Nobel. Donc c'était quelqu'un qu'on pouvait considérer presque comme un savant, ou même tout à fait comme un savant. Et ces travaux, pour ces travaux en biologie moléculaire, je ne vous dis pas grand-chose, moi un peu quand même. Et travailler sur ces cellules, simples en apparence, mais qui en réalité sont d'une complexité qu'un homme de science tel que lui peut réaliser. Il était communiste, forcément. Athée, comme au temps de la Russie soviétique. Il avait un ami qui scrutait l'univers pour capter des signaux sonores, car les étoiles émettent des signaux lumineux, mais aussi des signaux sonores. Savez-vous que la Bible en parle? Et la référence est dans le livre de Job. Job, chapitre 38, verset 7. Il a dit ceci, « Quand les étoiles du matin chantaient ensemble. » Je me souviens, étant plus jeune, beaucoup plus jeune que maintenant, on avait donné à une Noël, à l'occasion d'une Noël, une émission à la BBC où on retransmettait les signaux que l'on avait captés, les signaux sonores qu'on avait captés, le speaker disait, il s'agit des étoiles qui chantent. Fabuleux, non? Les étoiles chantent, et nous, on chante aussi, non? Je continue. Mais enfin, quand son ami lui dit, mais enfin, quand est-ce que tu t'arrêteras de croire toutes ces balivernes? Et en réfléchissant, il dit, moi qui travaille sur des cellules microscopiques, je sais que dans ces cellules, il y a des milliers et des milliers d'informations. Un véritable ordinateur, ces cellules qui recèlent plus d'informations que des ordinateurs les plus sophistiqués. Information cohérente et intelligente. Et cet ami lui dit, quand j'aurai capté ces signaux, s'ils existent, je saurai qu'il y a une intelligence qui les a codés. Et moi qui travaille sur ces cellules, avec toutes ces informations-là, il doit y avoir une intelligence qui les a codées. Si dans un ordinateur, vous n'y mettez pas d'informations, ne sert à rien. Il y a des milliards d'informations dans l'univers. C'est donc que quelqu'un les y a mis. Dans la cellule, il y avait une sagesse, donc il y avait un Dieu. Conclusion de ce cher Dimitri. Il se souvient qu'il y avait des gens un peu bizarres qu'on appelait des chrétiens. Et près de chez lui, il y avait une église évangélique, et un dimanche matin, il s'est rendu dans cette église parce qu'il voulait en consulter un de ces chrétiens qui disait que ce livre était inspiré par Dieu. À cette époque en Russie, la Bible était introuvable. Mais donc, il s'y trouva une personne âgée qui avait une vieille Bible. Une vieille Bible, ça veut dire une Bible usagée. Cette dame tenait un de ses précieux volumes, mais tout défléchi. Il demanda à cette dame s'il pouvait lui emprunter pendant une semaine. Ce qu'elle consentit volontiers. Il lut avec sérieux. Mais à la fin de la semaine, il la lui rapporta. Bien déçu, et lui avoua, je n'y comprends rien. Il devait être humilié, lui, un prix Lénine, qui n'y comprenait rien, alors que cette dame, cette grand-mère qui savait à peine lire et écrire, s'y trouvait tout à l'aise. Mais la dame lui dit, c'est parce que tu essaies de comprendre par ton intelligence. Alors je te la prête encore une semaine. Et tu vas demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence pour comprendre sa parole. Dimitri reprend le livre et pour la première fois de sa vie, il s'est mis à prier. Dieu, si tu existes, donne-moi de comprendre. Puis il s'endort. Et le lendemain matin, il ouvre le précieux volume au hasard et il tombe sur le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et vous savez ce qu'il dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous vîmes sa gloire, la gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Et il y avait au bas du texte une note qui disait ce terme, parole, en grec, dans le texte original, peut se traduire aussi par information. Alors la Bible s'est éclairée pour moi. Il a fondé un cercle de créationnistes. Savez-vous qu'il existe encore aujourd'hui en Russie, à Moscou? Un cercle de créationnistes. Il comprit que, parallèlement à ses travaux, il s'agissait de l'information qu'il recherchait. Comme pour les cellules vivantes, une sagesse, une intelligence inouïe avait pensé et conçu ce qui devait devenir des éléments doués de vie, dont le plus élaboré était l'être humain que nous sommes. Dieu avait un projet. Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous connaît, chacun, par notre nom. Nous que l'univers dans son immensité peut nous écraser, mais lui ce monde l'ignore, tandis que nous sommes conscients que l'univers peut, le peut car formé à l'image de Dieu, nous le sommes, et selon sa ressemblance est doué d'une intelligence capable de penser, de réaliser ce qu'est la vie. Il y a bien d'autres exemples dans cet immense pays. Il y a bien d'autres croyants dans cet immense pays pour lequel nous avons prié en son temps. Et savez-vous qu'il disait que eux aussi priaient pour nous. Nous, nous prions parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une Bible, disposer du Saint-Livre comme ils le veulent, comme ils le souhaitaient, comme ils le souhaiteraient, comme nous. Quelquefois, si vous vous souvenez, frère André envoyait une femme enceinte qui avait un gros ventre et qui, quand elle sortait de Lucie, n'avait plus de gros ventre. C'était des Bibles qu'elle apportait et qu'on les demandait. Même des fois, on s'arrachait des pages pour que quelqu'un eût au moins une portion du Saint-Livre. Et il disait que nous nous prions pour vous parce que en Europe, et en tout cas dans l'Occident, vous risquez, vous qui vivez dans une certaine opulence, vous risquez d'oublier l'essentiel, d'oublier l'attachement à une personne bien-aimée, le Seigneur Jésus, qui est venu mourir pour toi, pour nous. Chacun pourrait ajouter plusieurs faits troublants qui annoncent que nous vivons des moments difficiles, des circonstances particulières et quelque chose d'imminent va se passer. Notre Dieu n'aurait pas fait écrire un livre de 2000 pages en petits caractères s'il n'avait à nous communiquer de merveilleuses raisons de nous aimer en nous révélant ses plans divins et des plans spécifiques pour chacun d'entre nous. Nous pouvons le dire à notre voisin, à notre prochain. La vie que l'on reçoit chaque jour, c'est de lui et de lui seul dont on dépend. Nous y intéresser avec persévérance pour découvrir l'ineffable, le jamais vu, l'inouï, c'est dans la parole de Dieu. Un signe de déférence pour son auteur et de surcroît, la Bible nous parle de la sûreté de nos temps pour aujourd'hui et pour éternellement. Dans l'attente de sa venue, toute prochaine, que le Seigneur fasse régner sa paix dans nos cœurs et que rien ne vienne troubler la confiance et l'espérance vivante que le Seigneur a promise en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et en guise de prière, nous chanterons le cantique 299 de l'ATG, « Donne à notre âme plus de ferveur ». Que le Seigneur bénisse sa parole et chacun d'entre vous.